comment je vois la médecine de demain. C'est difficile d'en parler, je ne suis pas prophète, mais j'ai un petit peu réfléchi à la question et surtout réfléchi aux défauts de notre médecine actuelle, qui a ses grandeurs, bien entendu, mais qui a aussi d'immenses faiblesses. Eh bien, tout d'abord, il faudrait retrouver ce que j'appellerais de la simplicité et de la sagesse. Lorsque un patient vient, une patiente, si ça n'est pas trop grave, eh bien, un bon examen clinique permet de faire, et une bonne écoute aussi, permet de faire un diagnostic et de donner un traitement approprié. Il n'est pas besoin de prescrire des listes longues d'analyses, des examens où parfois on vous met des corps radioactifs dans l'organisme, où l'on vous met des produits de contraste difficiles à éliminer, qui sont polluants également pour le monde extérieur. Donc, il faudrait revenir à une méthode plus simple de traiter les patients et réserver analyses et autres examens pour les cas qui sont graves. Ça ferait d'abord une économie pour la santé, le malade serait moins agressé et les résultats seraient tout aussi bons, sinon meilleurs. Bon, donc simplicité. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui t'a supprimé. Vous voyez, oui. Lorsque, par exemple, la médecine occidentale ne dispose pas de bons traitements pour une maladie, et je cite le cas de l'hépatite, à quoi bon, l'hépatite, je peux citer aussi le sida, à quoi bon demander aux patients de faire des examens tous les 3 mois ou tous les 6 mois qui n'ont qu'un résultat, celui de montrer la dégradation progressive de l'organisme, l'aggravation de la maladie, donc d'entretenir le stress et l'inquiétude, donc de précipiter encore l'évolution de la maladie. Donc, je ne vois pas l'utilité de montrer au malade qu'il s'aggrave sans cesse. Vous voyez? Et au contraire, la médecine occidentale se précipite pour que toujours il y ait des contrôles. Je ne dis pas que les contrôles sont toujours, comment dire, à rejeter. Mais il faut savoir les manipuler, je dirais, avec sagesse et discernement. Bon, maintenant, la médecine de demain, il faut qu'elle retrouve une âme. Autrefois, on parlait de médecin de famille. Aujourd'hui, on parle de médecin traitant. Ce sont des termes qui sont pénibles, un médecin traitant. Un médecin, ça doit être un ami, ça doit être un confident. Ça doit être quelqu'un qui donne de bons conseils, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui a une valeur humaine. Or, qu'est-ce que l'on dit à nos étudiants de médecine? Les étudiants de médecine, étudiantes, sont submergés d'informations scientifiques, mais on oublie de leur dire qu'il faut écouter les malades. On oublie de leur dire que le malade, ce n'est pas un numéro de chambre, que le malade, il a un corps, une âme et un esprit, et qu'un malade est toujours plus ou moins angoissé, toujours plus ou moins inquiet, toujours plus ou moins triste, et qu'il faut prendre tout ça en considération. Donc, il faudrait pour la médecine de demain que les étudiants et les étudiantes comprennent qu'ils ont affaire à des problèmes humains et non pas à des cas qui peuvent être soi-disant intéressants. Intéressants peut-être pour le médecin, mais pas du tout intéressants pour le malade. Ensuite, vous voyez, les étudiants d'aujourd'hui, étudiantes, n'ont pas une culture générale qui les ouvre sur d'autres dimensions humaines que la science, que la technique. Donc, il faudrait qu'on retrouve la culture générale qu'avaient autrefois les médecins de nos pays, les médecins de famille, comme on disait. Qu'est-ce qu'on peut encore leur dire? Tous ces étudiants et étudiantes en médecine, et c'est pareil pour les étudiants et étudiantes de pharmacie, sont complètement coupés de la nature. Ils ne connaissent pas une plante. Ils savent certainement qu'il y a de la camomille, du thym ou de la lavande, mais ils ne connaissent pas les plantes, ils n'ont pas le contact avec les forces de vie de la nature. Et il faudrait que dans les études futures, il y ait une place pour des sorties au dehors, pour réapprendre à voir les plantes dans leur environnement et aussi pour réapprendre le silence, réapprendre l'écoute des forces de vie qui sont dans la nature. Et lorsqu'on se promène ou qu'on travaille dans la nature, on descend ses énergies et on se ressource. Et puis, avec le silence que l'on fait en soi, on devient ensuite capable de mieux écouter les patients et patientes. Donc, toute la formation universitaire, aussi bien en médecine qu'en pharmacie, est à revoir. Et alors ensuite, il y a un travail colossal qui nous attend. Les médicaments chimiques, comme je le répète, sont en sursis. Mais nous ne savons plus grand-chose sur les plantes. Et si nous savons encore pratiquer un peu de phytothérapie, d'aromathérapie, nous n'avons plus les traitements pour les maladies graves, comme en ont les médecines traditionnelles. Donc il faudra que les phytothérapeutes les plus renommés, ceux qui pourraient être considérés comme des maîtres, vous voyez, en Afrique ou ailleurs, que les phytothérapeutes les plus qualifiés, les plus intelligents, se mettent à inventer des traitements pour la tuberculose, pour le paludisme, pour les hépatites, à partir des données du passé sur lesquelles il faut réfléchir pour ensuite faire une synthèse et proposer des traitements qui seraient évidemment mis à l'épreuve, on ne peut pas savoir à l'avance s'ils seront bons, mais de proposer des formules pour que nous ne soyons pas démunis devant les affections les plus graves. Et alors, je vais ajouter quelque chose, c'est que, en toute modestie, personnellement, j'ai commencé, enfin, j'ai mené assez loin ce travail, et ce que je souhaite, c'est que beaucoup de confrères et de consoeurs se lancent dans la même direction et finissent par trouver des formules remarquables et que l'on refasse des nouveaux traités de thérapeutique basés sur des traitements à base de plantes efficaces et tirés de nos propres ressources médicinales. Donc tout est à revoir. Tout est à revoir. Ça ne doit pas nous décourager, mais la tâche est très ample et il faudrait la commencer sans tarder. Alors, avec ces traitements, je pense qu'on pourrait faire une médecine beaucoup moins coûteuse, très efficace, et qui remettrait aussi les patients en relation avec les forces de la nature. Les patients, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Des comprimés, enfin des médicaments sans vie, dans des emballages qui n'ont rien de réjouissant. Donc, avec des médicaments à base de plantes, on retrouve les forces de vie. Et puis, on pourrait aussi refaire des conditionnements agréables à regarder qui déjà préparent l'efficacité du traitement. Peut-être suis-je un peu poète, mais je crois que le conditionnement avec des petites fleurs ou des paysages, c'est mieux que des formules abstraites et des emballages qui n'ont pas de vie, pas de couleur et qui ne font qu'augmenter le stress des patients et patientes. Oui, il y a aussi une chose qui est à revoir. Je dirais que la mort, c'est quelque chose qui ne plaît pas, évidemment. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Même si on espère un paradis, il y a toujours le pas à franchir. Et comme je citais Sœur Emmanuelle, elle disait qu'elle ne craignait pas la mort, mais le mourir. Bon, la médecine occidentale considère la mort comme un échec et qui lui saute au visage, si vous voulez. Alors que dans les médecines traditionnelles, du moins la médecine africaine, la mort est considérée comme un phénomène normal et que la personne qui va rendre son âme va au pays des ancêtres. Donc la mort est, comment dirais-je, un peu apprivoisée. Elle fait partie de la vie et elle conduit dans une autre vie où on retrouve ceux qui nous ont précédés. Bien sûr, on peut dire que les chrétiens pensent la même chose. Mais ça n'est pas vécu de la même façon. Chez nous, la mort est dramatisée, alors qu'en Afrique, elle paraît, je ne dis pas banale, mais dans la normalité de la vie. Et j'ai toujours été étonnée de voir avec quelle simplicité les patients acceptaient de partir. Vous voyez, nous, en Europe, nous avons perdu le contact avec l'invisible. Et la médecine, elle, qui est une médecine qui est très orgueilleuse, cette médecine considère la mort comme un échec personnel, si vous voulez. Donc, c'est à revoir aussi toutes ces notions et tous ces sentiments. Alors, je prie le ciel d'envoyer des hommes et des femmes comme des prophètes pour remuer et montrer un chemin qui remène vers de la lumière. Il faudrait des hommes et des femmes qui aient du poids, bien entendu, ou bien qui tout d'un coup en ont, et qui sachent parler pour ramener les foules à quelque chose de raisonnable et à quelque chose de, je sais pas moi, de spirituel qui ouvre sur des perspectives. On est là, civilisation de consommation, la croissance, et on n'est plus sur le chemin de la vie. Et rien n'est sur le chemin de la vie, même pas ce qui est dans nos assiettes. C'est plein de pesticides et de choses bizarres, de conservateurs, d'additifs, de tout ce qu'on veut. Mais on a perdu le chemin de la vie. Et puis, trop de surconsommation, trop de surconfort, ça enlève la joie de vivre.
C'est vrai.
Ça enlève les plaisirs simples. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsque j'étais reçue à Toubatoul, chez le grand frère, le frère aîné de Magueil N'Gom, on était reçus dans des cases. Et la nuit, eh bien, comme lit, on nous offrait un lit en branchage avec un matelas de paille. Et pour suspendre nos vêtements, un petit bâton avec une entaille au milieu, avec une ficelle accrochée au mur de la case. Vous voyez, le confort était plus que rudimentaire. Eh bien, je vous dirais que nous avions un sommeil remarquable, qu'il y avait le calme de la brousse, il y avait toutes les étoiles qu'on voyait dans le ciel qui n'étaient pas noyées par toutes les lumières qu'il y a chez nous dans les villes. On était dans une simplicité, un dépouillement qui nous apportait beaucoup de joie. Je ne dis pas que j'aurais voulu vivre tous les jours comme ça, mais en étant beaucoup plus sobre chez nous, on découvrirait certainement beaucoup plus de joie. Le super confort n'apporte pas la joie. Il apporte, je ne sais pas, une espèce de mollesse dans la vie. Alors, on entendait les ânes braire, vous voyez, les coqs chanter le matin, les moutons qui bêlent. C'était vivant. Et en plus de ça, là, je le décris dans mon livre, Tiekodou, de temps en temps, la nuit, se levait et chantait des prières sur le village. Alors, on se réveillait et on entendait cette voix puissante qui demandait les bénédictions du ciel sur le village.
Qu'est-ce que c'est beau!
C'était très beau, vous savez. Et un homme qui était dans son petit cabinet médical, alors avec d'un côté l'autel des ancêtres, avec les offrandes, les cahiers, tout et tout, au mur des fourrures d'animaux, des plumes, des trucs, et en même temps, vous voyez, appelant l'être suprême, la nuit, sur pour ses concitoyens. Ah, c'était très beau. Très beau.